Notre vie a différents chapitres. En fait, la vie de chacun des enfants de Dieu, ça a des saisons. Et dans ces saisons-là, Dieu œuvre pour raconter dans chacun de nous une histoire de grâce, l'histoire de sa grâce. On a lu il y a quelques semaines Éphésiens chapitre 2, verset 10, où ça disait « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes son ouvrage. Le mot « ouvrage » ici, c'est pas le terme « travail »,« travail dur »,« travail fort ». Le mot ici, c'est « poema ». Ça vous dit quelque chose, « poema » ? Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son poème. Nous sommes son œuvre, chacun d'entre nous, où Dieu, à travers nos vies, veut raconter une histoire de sa grâce. Et à travers nos vies, alors, on a un livre qu'il veut présenter. Je me demande où vous en êtes rendu, vous, dans le livre de votre vie. Où Dieu est rendu dans le livre de votre vie. Est-ce que vous êtes au milieu d'un chapitre d'action? Un chapitre peut-être de perturbation? Un chapitre d'intrigue? D'extase? De conclusion? Où est-ce que vous êtes rendu? Où est-ce que Dieu est rendu dans le chapitre de vos vies? Un jour, il y avait un joueur de golf qui a demandé à son ami, son ami allait mourir, et a demandé de vérifier s'il y avait des terrains de golf au ciel, puis de venir lui donner des nouvelles s'il y en avait ou pas. Fait que de façon miraculeuse, l'ami s'est rendu au ciel, puis il est revenu pour dire à son ami, il a dit « J'ai deux nouvelles pour toi à ce sujet-là. Une bonne, puis une moins bonne. » « Ah oui? » Il dit « J'ai vérifié au ciel, puis en effet, il y a des terrains de golf au ciel. » C'est merveilleux. Mais il dit « J'ai une autre nouvelle aussi. » Il dit « Il y a un départ qui est réservé pour toi à 8h36 demain. » Je pense qu'il était rendu au dernier chapitre de sa vie, lui. En fait, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, je ne suis pas pressé d'aller jouer au golf au ciel, ça vous pouvez en être sûr. Mais j'ai l'impression quand même que dans les dernières semaines, de voir un autre chapitre du poème de Dieu pour ma vie se terminer. Il y a deux semaines, c'était l'école du dimanche avec le dernier enseignement où ça m'a donné de la joie de partager les Écritures. La semaine dernière, on avait la table du Seigneur, puis c'était encore un poignant pour mon cœur de, en communauté chrétienne, se rappeler l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce matin, bien, c'est le dernier dimanche où je vais enseigner la parole à Beauport, puis c'est un autre moment que privilégié certainement. Et cette semaine, je me demandais, bien, quelle sorte de message serait approprié pour la circonstance? Qu'est-ce que je devrais communiquer à l'Église si c'était le dernier message que j'avais enseigné? Et il y a un verset qui me venait en tête, un verset de Paul dans 2 Corinthiens 4, 5, qui dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous, nous disons vos serviteurs à cause de Christ. » Et j'aimais cette attitude de Paul. Il voulait prêcher Christ. Et c'est toujours le même désir, du premier message peut-être jusqu'au dernier, de prêcher Christ, de prêcher son amour en exposant la Bible, le message d'amour du Christ. Alors, je regardais les textes et je me disais, « Man, Éphésiens 5, versets 1 et 2, c'est vraiment encore, on va tout simplement suivre le texte parce que c'est un texte merveilleux à enseigner, parce qu'il me semble bien à propos, parce qu'il nous encourage à mutuellement marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Et ce matin, à travers ces quelques versets, ces deux, trois versets, j'aimerais ensemble qu'on considère quelques facettes de l'amour de Dieu. Cet amour-là qui veut qu'on expérimente comme faisant partie de l'histoire que Dieu veut raconter à travers ma vie et à travers chacune de nos vies. Alors, si vous avez trouvé Éphésiens chapitre 5, j'aimerais y lire quelques versets. Prions Dieu ensemble d'abord. Seigneur Dieu, encore merci pour le privilège que tu nous as donné de regarder ta face à travers tes Écritures. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui s'est approché, le Dieu qui nous a montré un exemple d'un amour inconditionnel, parfait dans son Fils Jésus. Seigneur, ce Dieu qui nous a fait naître dans sa famille et qui veut nous transformer à son image. Seigneur, merci parce que dans chacune de nos vies, tu as une histoire à raconter, une histoire de ta grâce, une histoire de ta gloire. Et Seigneur, on veut te prier que pas à pas, nous puissions accueillir ces chapitres et que Seigneur, on puisse être disponible pour que ta gloire se manifeste dans chacune de nos vies. Alors Seigneur, utilise ta parole encore ce matin pour qu'on apprenne à mieux te connaître, à désirer te ressembler davantage. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 5, et pour prendre bien le texte, il faudrait commencer au chapitre 4 et le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans l'amour, nous dit le texte. Devenez des imitateurs de Dieu. Quelques facettes de l'amour. D'abord, je vois dans le texte, qu'est-ce que c'est aimer? Aimer, c'est imiter Dieu. Devenez donc des imitateurs de Dieu, il nous dit. Dieu est l'auteur et la source du véritable amour. Il dit imiter Dieu. Imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Les jeunes enfants qui désirent grandir, puis qui regardent leur papa, à qui ils veulent ressembler, vous pensez? Comme petit enfant bien-aimé. Ils veulent ressembler à leur père. Je vous apprends pas grand-chose, hein? Un petit enfant qui voit son père devrait désirer, et il désire grandir en ressemblant de plus en plus à son père, en recherchant à l'imiter. Malheureusement, trop souvent, les enfants, quand ils ont grandi, ils réalisent que leur père avait été des mauvais exemples à suivre, puis ça allait laisser des marques sur leur vie. Mais imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, parce que chaque croyant, nous sommes des enfants bien-aimés de notre Père céleste. Et il désire toujours plus. Et il désire toujours que nous désirions toujours plus. Le connaître, l'aimer, est limité parce qu'il est notre Père céleste. La Bible a dit dans 1 Jean chapitre 4 et versets 7 et 8, « Quiconque aime est né de Dieu. » Si tu aimes vraiment, toujours les mots agapé qu'on va voir tantôt, c'est parce qu'on est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est l'auteur de l'amour. Dieu est la source de l'amour. Et celui qui aime vraiment, véritablement, manifeste qu'il est né de Dieu. Une vie qui imite celle de Dieu doit être une vie qui est caractérisée par l'amour, parce que l'amour est l'essence du caractère divin. Est l'essence du caractère chrétien. Je veux dire, et aussi l'essence du caractère divin, puisqu'on est ses enfants, on est là pour lui ressembler. Aimer, c'est imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Aimer, c'est imiter Dieu comme notre plus grand appel. À quoi Dieu nous a-t-il appelés? À quelle fonction nous a-t-il appelés? Sinon, d'abord, à l'aimer, à aimer. Le plus grand appel, la plus grande vocation, le plus grand privilège que Dieu a offert à ses enfants bien-aimés, c'est de lui ressembler, et Dieu est amour. On a vu précédemment dans Romains chapitre 8, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est notre plus grande vocation. C'est à ça que Dieu nous appelle en premier. Avant tout ce que nous puissions faire, c'est de l'aimer et de devenir semblable à l'image de son Fils. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu est amour. La Bible a dit Dieu est saint aussi. Et dans l'Ancienne Alliance, il était répété régulièrement, « Vous serez saints. » Pourquoi? Parce que je suis saint. Dieu est amour. Par conséquent, Dieu s'attend à ce que nous reflétions son caractère, son essence, que nous reflétions l'amour. c'est vrai dans le livre de Lévitique et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 5, il répète le même principe pour les chrétiens. Vous serez saints parce que je suis saint. Vous allez manifester l'amour parce que Dieu est amour. Aimer, c'est imiter Dieu. Et ça, c'est notre plus grand appel. Aimer, c'est imiter Dieu parce que, en réalité, Dieu est notre meilleur modèle. Jésus-Christ est notre meilleur modèle. Si vous êtes chrétien, ben ce premier objectif d'un chrétien, c'est de ressembler à Christ. C'est d'être un apprenant de Christ. C'est d'être un disciple de Christ. C'est d'être un imitateur de Christ. C'est ressembler à son maître. Son maître, notre maître Jésus, est notre mesure étalon, est notre standard à laquelle on doit toujours se comparer. On ne doit pas se comparer les uns les autres. On doit toujours se comparer à la mesure étalon, à Christ, notre mesure étalon. Dieu désire que, en contemplant Christ, nous soyons transformés à son image, jusqu'au fait d'être remplis, la Bible dit, on a vu dans Éphésiens 3, 19, jusqu'à toute la plénitude de Dieu et le représenter. Cette semaine, je partageais ma foi avec une personne encore, puis... Il me demandait pourquoi croire le christianisme plutôt que le bouddhisme ou l'islam. Puis je lui disais que finalement, la crédibilité du message, que ce soit du christianisme, du bouddhisme ou de l'islam, des musulmans, la crédibilité du message dépend toujours de son modèle. Dépend toujours de son modèle, de sa mesure étalon, de son chef. Et je me suis dit que quand je regarde le fondateur du christianisme, quand je regarde le fondateur du bouddhisme, quand je regarde le fondateur de l'islam, bien, je suis très heureux de vouloir ressembler à Jésus-Christ. Beaucoup plus qu'à Bouddha. C'est que, peut-être qu'il aurait fait un bon gardien de but, par exemple. Il y a assez de volume, je ne sais pas, mais je regardais un peu sa vie. Il n'y a pas de passion là-dedans. D'ailleurs, c'était l'objectif du bouddhisme, enlever toute passion, enlever toute l'inertie complète. Mais tout est beau en Jésus. Évidemment, si j'avais à comparer avec Mahomet, j'irais pas tellement loin. Un homme qui était violent, qui était meurtrier, qui était voleur, qui était adultère, qui avait plusieurs femmes, des enfants pour ses femmes, un homme qui allait vers les autres puis dit « crois ou meurt », ça ressemble pas à mon sauveur, ça. Mon sauveur, il a dit, moi, je suis prêt à mourir pour toi parce que je t'aime. Ça, c'est tout à fait différent. Tout en Jésus est aimable et admirable. Et s'il est vrai que le christianisme n'a pas toujours été un modèle dans le monde, bien, c'est parce que les chrétiens n'ont pas toujours suivi l'exemple de leur maître, de leur modèle. Ce n'est pas à cause de leur modèle, Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. T'as-tu ce chant-là déjà sur notre écran, Serge? Je vais te bousculer vite. C'est notre espoir suprême. C'est votre espoir suprême. Devenez les imitateurs de Dieu. Vous connaissez ce chant-là? Et oui, chantez avec moi. On va le chanter à la fin de la musique, ça va être encore mieux. Chantez avec moi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Aimer, c'est imiter Dieu. C'est devenir des imitateurs de Dieu. Aimer aussi, c'est suivre l'exemple que Christ nous a donné. Le texte disait, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Jésus est notre exemple. Notre exemple suprême de qu'est-ce que ça veut dire marcher dans l'amour. Tantôt, on a lu 1 Corinthiens chapitre 13, plein d'exemples de qu'est-ce que ça veut dire marcher dans l'amour. Regardez 1 Corinthiens 13 et regardez la vie de Jésus. Et vous allez voir que ça se marie de façon parfaite. C'est quoi aimer? Aimer, c'est de faire le choix de se donner à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré, qui s'est donné. Aimer, c'est le choix volontaire de se donner. La Bible a plusieurs mots pour l'amour. Souvent, le mot « philéo » et le verbe « philéo », le nom « Philadelphia », souvent, l'amour des frères, la Philadelphie. Et « philéo », aimer, un amour fraternel. Mais la Bible, elle utilise beaucoup plus souvent le mot « agapao », aimer, et « agapé » pour l'amour. C'est étonnant que dans le livre d'Éphésiens, aucune fois apparaît les mots « philéo » ou « Philadelphia ». Toujours, et 19 fois en fait, ça apparaît le mot « agapao », le verbe, et « agapé », amour, aimé. Parce que Jésus veut que pour les croyants, on insiste au-delà de l'émotion vers l'engagement, le choix volontaire de donner, l'engagement volontaire. Par exemple, dans chapitre 1, verset 15, il dit « Je loue Dieu pour votre amour pour tous les saints, votre engagement envers eux. » Chapitre 4, verset 2, il dit « Vous supportant dans l'amour. » Chapitre 4, verset 16, « S'édifiant dans l'amour. » Chapitre 5, 25, « Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Agapao. Plutôt que juste un amour d'émotion, un amour d'engagement. Aimer, c'est suivre l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même, qui s'est donné, le texte dit, comme une offrande à Dieu. Comment il s'est donné comme une offrande à Dieu? D'abord en venant parmi nous, en s'incarnant, en prenant la nature humaine, en vivant parmi ses créatures, en guérissant les malades, en restaurant la vie, en réparant les vies brisées par le péché des hommes. Et finalement, en donnant sa vie en rançon pour les péchés de l'humanité. Ça, c'est l'amour. L'amour dont Christ a donné l'exemple. C'est donner, c'est livrer lui-même. C'est pour ça qu'on trouve dans Jean 3, 16, « Car Dieu a aimé. » Mais il y a un autre plus. « Car Dieu a tant aimé. » Un beau chant pour les enfants. « Car Dieu a tant, tant, tant aimé le monde. » « Car Dieu a tant, tant, tant aimé le monde. » Qu'il a fait quoi? Il s'est donné. Il s'est livré lui-même comme une offrande. Aimer alors, c'est une décision. C'est un choix volontaire. Aimer, c'est suivre l'exemple de Christ, de se donner comme un choix volontaire. Et c'est aussi de se donner avec un choix qui est sacrificiel, sacrificiel particulièrement pour pardonner. Il nous est dit, dans le texte, il s'est livré lui-même à nous, pour nous, comme une offrande, mais aussi comme un sacrifice de bonne odeur. Dieu, Jésus, a fait le choix sacrificiel de se donner afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et c'est pour ça qu'il nous dit au verset 32, « Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Aimer, c'est le choix sacrificiel de pardonner, de s'offrir en sacrifice. Et ça, c'est devenu pour le Père un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice qui lui a plu. Et par son sacrifice à la croix, Jésus a obtenu, la Bible dit, une rédemption éternelle, un rachat éternel et le pardon de nos péchés. Lorsque nous étions morts, lorsque nous étions encore des pécheurs, Romains 5, 8 nous dit, Christ est mort pour moi, Christ est mort pour nous. Et le sacrifice de Jésus a été accepté au Père et a monté devant lui comme un sacrifice qui était agréable, qui était bien plus agréable que le meilleur des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et dans la crucifixion, le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu manifestait l'extension de tout son amour pour nous, pour des pécheurs perdus. Et si nous sommes des enfants de Dieu, et puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons reçu cette nature-là. Nous avons reçu la nature divine. Et ayant reçu cette nature-là, on devient à ce moment-là capable, à notre tour, par la puissance de son esprit, ben, d'imiter notre Sauveur, d'imiter Jésus-Christ, en aimant l'autre, en pardonnant de façon volontaire, de façon sacrificielle. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous connaissez Jean 3,16. On l'a cité déjà. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous devriez connaître un autre Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Connaissez-vous 1 Jean 3,16? Ça dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » On a connu l'amour parce que Dieu a donné sa vie pour nous. Ça, c'est Jean 3,16. Mais 1 Jean 3,16, il va ajouter, « Et nous, c'est à notre tour maintenant de donner notre vie pour les autres. » Aimer, alors, c'est offrir, c'est donner, c'est se livrer plutôt que de prendre, plutôt que de réclamer de l'autre. C'est se donner. Et finalement, aimer, ben c'est pas seulement imiter Dieu, c'est pas seulement suivre l'exemple de Christ, mais c'est pas lâcher. Aimer, c'est persévérer dans le don de soi. Il faudrait remarquer que les impératifs qui sont là sont au présent. Soyez bons, c'est au présent. Devenez les imitateurs de Dieu, c'est au présent. Marchez dans l'amour, c'est au présent. Ce sont des impératifs présents. Et un impératif présent en grec, c'est en fait un mot qui veut dire de continuer. Ça a toujours cette notion de constance, de progression, de persévérance. Enfin, on a commencé à lire au verset 32 parce que « soyez puis devenez », en grec, c'est le même mot. C'est l'amour qui est exigé. « Soyez bons » ou « soyez les imitateurs de Dieu ». C'est un amour qui est exigé, mais c'est un amour aussi qui est exigeant, parce qu'il est au présent, c'est constant, c'est progressif, c'est continuer d'être bon, continuer d'être des imitateurs de Christ. Continuer de manifester de la bonté, de la compassion, continuer de manifester le pardon mutuel, parce que ça, ce sont des marques supérieures de marcher dans l'amour. C'est la manière d'aimer, pas en parole seulement, mais comme dit Jean, en action et en vérité. Et on a besoin de continuer parce que tout au cours de notre pèlerinage ici-bas, on n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais à être de parfaits modèles de Christ. Mais on doit toujours, continuellement, tendre vers ce but-là. De ressembler à Christ. C'est mon désir suprême, comme on chantait. Il nous faut continuer de marcher dans le chemin en direction du but. Puis le but ultime, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ. Alors, il nous dit, sois bon, continue de l'être, continue d'être compatissant, continue de devenir un imitateur de Christ. Continue d'avancer, tends vers ça, pour être un sacrifice de bonne odeur. Une vie qui va plaire à Dieu. Aimer alors, c'est aussi plaire à Dieu dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on est. Et je réalise que pour moi et pour Alma, ben, le chemin présent pour plaire à Dieu consiste à faire un pas, je dirais, sacrificiel. Puis ce pas sacrificiel-là, ça va être de quitter les croyants de Beauport pour qu'on puisse, pour que nous, les chrétiens de Beauport qu'on aime profondément, de manière à pouvoir aussi maintenant s'investir à pratiquer, particulièrement qu'est-ce qu'on a vu dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33, « Marie, aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église. » Bien, on a besoin pour ça, pour se reconcentrer là, de quitter les croyants de Beauport, qu'on aime beaucoup, pour s'investir particulièrement dans cette section-là. En disant que nous quittons Beauport, je ne suis pas en train de dire, je ne me considère plus, je ne suis pas en train de dire qu'on laisse le ministère, mais en même temps, je dois dire que je ne considère plus la personne don. On a vu dans Éphésiens 4, 11, Dieu a donné à l'Église des personnes don, des évangélistes, des pasteurs, docteurs. Je ne considère plus le pasteur, docteur que Dieu donne à l'Église de Beauport. Bien que, bien entendu, je sois toujours l'homme que Dieu a uni à Alma, il y a un vœu qui est plus élevé qu'une fonction. Le vœu que j'ai fait à Alma, ça va être permanent, puis c'est toujours là. Mais pour ce qui est de l'Église de Beauport, je ne me considère plus cette personne don-là. Le vœu que j'ai fait à Alma, ce ministère conjugal, je veux maintenant que ça prenne l'avant-plan dans ma vie. Je pense toujours être une personne qui est appelée pour le ministère, que ce soit comme pasteur ou comme enseignant, mais si l'appel demeure dans ma vie, la fonction, présentement, elle prend une pause. Et bien entendu, avec l'espérance de ne pas demeurer sur les tablettes indéfiniment, mais par la grâce de Dieu d'être appelé de nouveau pour servir avec enthousiasme le Seigneur et son peuple dans un nouveau ministère que Dieu aurait devant nous. L'appel demeure, la fonction prend une pause. Et je trouve que dans un sens qu'il y a un élément bien, qu'on se retire complètement de fréquenter l'Église de Beauport, parce que dans les prochains mois, l'Église de Beauport, elle aura besoin de se serrer les coudes pour aimer, pour servir en considérant dans l'Église les personnes dont que Dieu a donné à l'Église. Et je pense qu'en n'assistant pas à Beauport, l'Église va pouvoir mieux évaluer son besoin, ses besoins, son besoin éventuel d'un pasteur, d'abord soit pour assister David ou encore d'un pasteur pour conduire l'Église avec pasteur David. Aimer, c'est persévérer à donner, à choisir de servir Dieu, à aimer sans se lasser, à aimer pour plaire à Dieu. Et des fois, plaire à Dieu, il y a d'autres personnes qui trouvent que ça va plaire moins à certaines personnes. Mais on veut plaire à Dieu en premier. En terminant, je veux juste vous dire merci. Merci pour votre amour que vous avez manifesté dans nos vies. Merci de nous avoir donné l'occasion, Alma et moi, de marcher parmi vous, de grandir avec vous. Évidemment, il y a un chapitre de notre histoire qui prend fin. Mais ce chapitre-là, cette histoire-là a été tout à fait exigeante, mais tout à fait passionnante aussi. Merci pour votre amour aussi, pour Alma et pour moi. On a trouvé à Beauport joie et satisfaction à servir le Seigneur, puis en vous servant dans les 15 dernières années. Je réalise qu'on n'a pas toujours été de bons modèles, et je vous demande pardon que ma vie n'est pas toujours reflétée ou n'est pas reflétée davantage la personne de Jésus, Jésus que j'aime, Jésus qui est mon Sauveur, qui est mon Seigneur bien-aimé. Je me réjouis toutefois que, bien que moi, comme vous, j'imagine, je suis faible et pécheur. Je suis d'abord une brebis. Je suis d'abord une brebis bien-aimée du Seigneur, avant d'être un berger pour le peuple du Seigneur. Dieu n'a pas fini avec notre livre d'histoire. Dieu n'a pas fini d'écrire le livre dans ma vie. J'aime en anglais, il y a une expression qui dit « The best is yet to come ». Le meilleur est à venir. Comme dans les livres. Il y a des livres, des fois, il y a des chapitres et ça finit. « Oh, qu'est-ce qui arrive? Ça va être Dieu? Qu'est-ce qui se passe? » Mais souvent, on veut tout de suite aller à la fin, la conclusion, pour dire « Ah, ça finit bien ». Mais je peux vous dire que Dieu a un livre de sa grâce à écrire à travers nos vies, puis il n'a pas fini. Le meilleur est encore à venir. Alors que le Seigneur vous fasse la grâce à vous aussi, de continuer de marcher dans l'amour, de continuer de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, lui qui m'a aimé, qui nous a aimés, qui s'est livré à Dieu lui-même pour nous. Et ma prière est celle de Paul qui termine en 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est mon désir que Dieu continue de bénir, comme il a déjà béni, qu'il continue de bénir l'Église de Dieu à Beauport. Que sa grâce soit sur vous, que la communication de l'Esprit soit sur vous, que l'amour de Dieu soit sur vous. Et Dieu n'a pas fini de raconter une belle histoire dans l'Église de Beauport. Oh Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui es le souverain berger. Et sous ta houlette et ton bâton, nous sommes rassurés. Seigneur, merci pour comment te manifester ton amour et ta grâce pour chacun des croyants ici. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses continuer d'agir avec puissance, avec éclat dans cette Église. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, dirige nos vies à nous, Alma et moi. Trace le chemin. Seigneur, on compte sur toi aussi. On a besoin de ton aide.
Mais Seigneur, on veut te louer, te remercier que nous aussi, nous sommes tes brebis bien-aimés. Et notre désir le plus sincère, c'est de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Et nous te prions ces choses, Seigneur, pour que ta gloire se manifeste ici, dans nos vies, comme dans le monde entier. En te priant au nom de Jésus. Amen.